Amis de Radio Occitanie, de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous avons l'honneur de recevoir dans les studios de Radio Occitanie, dans ce mois d'octobre, nous avons la joie de recevoir un éditeur, Bruno Mcika, et un de ses auteurs, Philippe Saouk. Bonsoir Philippe Saouk. Bonsoir Bruno Mcika.
Bonsoir.
Merci d'être venu, en particulier Monsieur Mcika, puisque vous venez quand même du Gard.
Du fond du Gard.
C'est une ville qui n'est pas très connue.
Lodin.
Et pour lequel vous exercez donc ce métier difficile dont nous parlerons lors d'une prochaine émission d'éditeur. Et vous êtes venu ici à Toulouse pour accompagner un de vos auteurs qui est devenu, semble-t-il, grâce à cette publication de vos amis, ce qui est quand même tout à fait dans la tradition noble de l'édition, hein, ce rapprochement de l'auteur et de l'éditeur, qui est Philippe Saouk. Alors, Saouk ou Saouk ?
Saouk. Ah, j'ai toujours entendu prononcer Saouk, que Saouk. Ce soit en occitan ou en français d'ailleurs, me semble-t-il, mais... Alors, ça fait voyager dans votre prononciation.
Alors, Philippe Saouk, ouais. Vous habitez Toulouse.
Eh oui, du quartier à côté.
Voilà, du quartier à côté. Ouais. Et donc, ça, cette publication a permis de se rencontrer. Bon, vous êtes pas étranger à la culture occitane, loin de là, puisque vous êtes né dans le Tarn-et-Garonne.
En tout cas, j'y ai grandi.
Grandi, ouais, oui.
J'y ai grandi, effectivement.
Et vous avez séjourné, je crois, en Ariège.
Oui, j'y ai passé la période qui va des 25 aux 30 ans. Voilà, donc ça a été encore une autre étape dans ma vie,
oui.
Effectivement, pyrénéenne, celle-là.
Un petit peu plus, peut-être, sur cette période-là.
Oui, c'est une période qui m'a permis de connaître plusieurs choses. La vie dans des espaces avec peu de personnes, mais du coup, on apprécie peut-être d'autant la qualité des rencontres. Puis également, d'être au contact de personnes qui avaient connu, jeunes, un monde où l'oralité était importante. Et donc, ça a fait écho à cette oralité que j'avais précédemment connue en Afrique.
Ce pays dont vous parlez, c'est un pays que je connais un petit peu, puisque c'est le Couserans, c'est mon pays natal en ce qui me concerne. Et c'est vrai que l'oralité dont vous parlez, et même l'occitan dont vous parlez ici, la plupart des habitants que moi j'ai fréquenté dans mon enfance, s'ils venaient ici, s'ils entendaient les occitans, ils seraient très étonnés.
Effectivement.
Et je pense même qu'ils seraient assez amusés.
Certainement.
Donc c'est bien d'avoir été en contact avec une authenticité, je dirais, dans l'authenticité quand même historique de cette très très belle langue.
Tout à fait.
Alors, vous disiez que vous aviez voyagé.
Oui.
Donc, voyager en Afrique, je crois.
Oui. Voilà. Entre le Tarn et Garonne et l'Ariège, précisément, oui.
Et de toute... Alors, c'est l'Afrique, c'est un séjour assez long.
C'est un séjour surtout dans des conditions telles que je m'y suis dissous totalement. Ça a duré 14 mois, ce qui n'est pas très très long, mais 14 mois de vie intense. Dans des petits villages où on n'est plus en contact avec des gens de sa culture de départ, où on parle une autre langue, où on vit à un autre rythme, avec d'autres activités. Ça vous transforme et ça m'a transformé.
Et alors c'était où exactement, pardon ?
C'était au Sénégal oriental, c'est dans un ancien petit royaume qui s'appelait le Wouli, dont j'ai connu d'ailleurs le fils de l'ancien roi. Et donc dans une partie de l'Afrique délaissée un peu par les itinéraires touristiques d'aujourd'hui ou par les grandes formes d'économie de plantation, très proche d'une vie traditionnelle, mais en même temps agitée aussi de tous ces courants actuels, de l'émigration en particulier.
Et tout ceci vous a amené à rédiger un roman, Na virgule l'âme,
oui.
Donc publié aux éditions Lacardère.
Oui.
Ce roman met en scène une mère portugaise, oui. Et un père africain.
Exactement, oui.
Alors, avant d'en dire un peu plus, nous allons écouter un petit peu ce mélange de l'Afrique et du Portugal par la voix de César Véret Évora. Ouais.
Qué monstruables caminos, qué monstruables caminos, es camino pasado me. Qué monstruables caminos, qué monstruables caminos, es camino pasado me. Saudade des minha terra, San Nicolau. Saudade des minha terra, San Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou do meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando me. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade. Saudade desse minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Nicolau.
Le mélange de deux cultures, la culture portugaise et la culture africaine, donc, est tout à fait en symbiose avec votre livre, hein, puisque on sent d'ailleurs tout au long du livre chez vous une volonté de forcer un peu ce mélange, en tout cas un très grand enthousiasme, un très grand élan vers cette mixité.
Oui.
Mixité à la fois de culture, bien entendu de race, mais aussi de langue. Et il y a dans votre roman qui est bâti d'une façon très très originale, hein, je veux dire, c'est pas je trouve que c'est pas du tout un roman classique, l'éditeur en dira un mot. Il faut, c'est vrai qu'on prend des risques en publiant un roman qui sort véritablement de l'ordinaire, et c'est ce qu'il y a de passionnant. Hein. Il y a dans ce livre, en fin de livre, un glossaire. C'est le glossaire des termes de la langue Maninga.
Oui.
Maninga.
Absolument.
Alors, il y a, on sent aussi cette succulence chez vous de la langue, hein, des termes, hein, avec le petit qui, quand il parle dans sa langue africaine, qui est corrigé par le père d'adoption. Donc, ça veut dire quand même que le père d'adoption a fait cet effort d'apprentissage de la langue. Et on sent que cette fraternité des langues est aussi en filigrane dans tout le roman. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la trame de ce roman, qui figure en quatrième de couverture? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, ben je crois que vous avez donné le point de départ. Le point de départ, c'est la rencontre d'une mère portugaise et d'un père africain. Alors, si on dit mère et père, c'est qu'après, ben, y a un enfant. Mais voilà, ça c'est... Au démarrage, disons, du roman, cet enfant se trouve privé, en même temps, de sa mère et de son père. Et alors, il est en présence d'un homme européen. On découvrira même à un moment donné qu'il est occitan et qu'il parle un peu cette langue-là. Cet homme qui pourrait être moi, dans le fond, qui a vécu un moment de sa vie important, jadis, au pays du père, donc, qui en a gardé une langue, qui en a gardé... des éléments d'une culture, et donc il va à la fois voir au jour le jour pour cet enfant tout dont il serait besoin, et également qui va essayer de transmettre un peu cette ou ces cultures où effectivement deux langues reviennent, alors peut-être plus la langue Maninga que la langue portugaise pour des raisons liées à mon histoire à moi, mais en essayant en tout cas de donner ces formes d'accès au monde et ces briques un peu de construction de soi-même.
Ce roman est construit, on dirait qu'il y a comme trois récits parallèles, complètement parallèles,
oui.
Qui sont d'ailleurs très identifiables puisque la topographie, hein, l'éditeur a fait en sorte que la topographie soit bien différenciée, que l'on puisse parler des polices de tout à fait différentes. Mmh. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce...
Bien, l'une est un peu le prolongement direct de ce dont je parlais. Ça va être une trame qui va raconter des moments importants au quotidien partagés entre cet enfant, donc de père africain de mère portugaise, et l'homme avec lequel il vit, donc, au moment où il est seul. Une deuxième trame est constituée à un moment donné par une sorte de retour que va faire cet homme vers une mère adoptive africaine qu'il a eue, donc, 20 ans auparavant. Et donc, va s'adresser à elle, parce que dans ce qu'il vit avec cet enfant, va se trouver l'écho de choses importantes qu'il avait vécues et dont il prend conscience à ce moment-là. Puis la troisième trame, c'est un peu une sorte de journal que tiendrait l'homme pour lui-même, qui raconte de manière très concrète les heurts et les difficultés, disons, de cette vie à mener avec un enfant dont on n'est ni le père ni la mère.
Vous pouvez nous rappeler peut-être les noms des personnages pour que...
Alors le personnage adulte s'appelle Serge Chégut. Voilà, on pourrait imaginer qu'il est né, lui, dans la région d'Agen, pas trop lointaine, et que donc il a voyagé en Afrique, et qu'ensuite, c'est à Paris, en fait, qu'il est amené à vivre avec cet enfant. Cet enfant, lui-même, donc, a un nom un petit peu collage, mi-africain, mi-européen, il s'appelle Lamilex, et puis à un moment donné, ce nom devrait être raccourci, voilà. Et le roman donne un peu aussi la clé de ce pourquoi le raccourcir, ce nom-là. Ce sera une étape importante.
Qui, on le rappelle, s'appelle Na, virgule, Lam.
Voilà, Na, c'est la mère en langue Maninga, maman.
Oui.
Et Lam, c'est le fameux prénom raccourci de l'enfant.
D'accord. Donc de Laminex, on le plie en deux et on a Lam.
Exactement. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, le pli en deux, peut-être ne le réduit pas. Oui. C'est inventer autre chose.
Au contraire. On va lire un extrait. On va vous demander de nous lire un extrait de Na, Lam.
Ben, je crois que, voilà, c'est C'est vers le début de cette vie partagée. Vacances à peine terminées, il faut passer à autre chose. D'ailleurs, vacances pour moi, vacances pour lui. Maintenant, c'est mon travail qu'il convient d'organiser. Un travail qui me permette de vivre avec lui, là où sa vie a encore quelques repères. Un travail qui donne l'argent du quotidien. Mes réserves de la période précédente sont désormais épuisées. Il va hériter quelque chose des économies de Liliana, mais cela prendra du temps. Aux dernières nouvelles, une enquête doit se faire sur la mort de celle-ci, mort trop brutale pour qu'on ne cherche pas à en savoir plus. Pas trop d'inquiétude quand même. La piste d'activité que je commençais à explorer pour moi au moment où le frigo m'a désigné pourrait être la bonne. À l'époque, j'entrevoyais à peine à quel genre de vie elle me conduirait. Aujourd'hui, il me semble qu'elle convienne à une vie toute tracée. Aucune autre n'est réellement apportée. Travail indépendant. Les inscriptions aux différentes caisses n'ont apparemment pas été rejetées. Les premiers contrats sont là. Des études à mener, je devrais savoir faire. Bien sûr, il faudra se déplacer de temps en temps. À la journée, bien sûr. L'Amilex restera là, lui, sauf exception de temps de vacances. Pour lui, l'école. Le tribunal a insisté sur cette régularité. Ne pas trop réfléchir aujourd'hui à la complexité possible de certaines organisations. Se fera s'il doit se faire. Voilà, ça c'est un fragment de ce journal un petit peu que tient l'homme pour lui, où se construit cette vie avec cet enfant.
Alors, il y a une finalité quand même dans la volonté de cet homme de devenir père. Qu'est-ce qu'il veut pour cet enfant? Qu'est-ce qu'il souhaite?
Au point de départ, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions et une forme de nécessité. Et aussi l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui a été souhaité par d'autres, et notamment par la mère de cet enfant, que ce soit lui, si jamais un malheur devait arriver, un malheur est arrivé à cette femme-là, que ce soit lui qui vive au moins quelque temps avec cet enfant. Tout ça va lui poser beaucoup de questions, mais en même temps il est conduit aussi par une nécessité, et l'enfant lui-même va faire apparaître d'autres nécessités, celles que les enfants abordent sans complexe, au jour le jour, en fonction de ce dont on se sent besoin pour vivre. Et puis peut-être, au bout d'un moment, alors, le sens va se trouver, effectivement, dans ce dont on parlait tout à l'heure, la transmission d'un sens de la vie qui est un sens complexe, qui est un sens qui se tresse un peu comme le livre est construit, qui se tresse entre plusieurs langues, plusieurs cultures, parce que cet enfant-là, qu'on le veuille ou non, se trouve au croisement de ça. Et l'homme va découvrir que lui-même, avec une identité en apparence plus simple, est finalement aussi au croisement de plusieurs choses.
Et il y a aussi une volonté d'autonomie de l'enfant, de rendre l'enfant autonome,
oui. Hein,
qui est en définitive la quintessence de l'éducation.
Voilà, c'est dans ce sens-là en tout cas que l'homme prend le mot d'éducation, et parfois il se reproche peut-être de ne pas laisser ça suffisamment, puis il arrivera un moment où l'enfant lui-même, de toute façon, va la prendre, cette autonomie, peut-être de manière un peu brutale.
Il la prend de manière un peu brutale.
Voilà.
Mais c'est à la fois, ça signe la réussite.
Et bien d'une certaine manière, oui.
C'est comme ça que je l'ai vécu en le lisant.
Exactement. Hein, oui. Donc, on peut dire que, à la façon dont peut le faire un roman, il y a un questionnement sur l'éducation, effectivement. Et peut-être un questionnement qui se pose d'autant plus que là, c'est pas des parents face à leur enfant, que c'est quelqu'un qui n'est pas un parent. Mais peut-être que ces questions-là, des parents aussi pourraient se les poser.
Alors, Bruno Mpika, quand vous avez eu ce manuscrit, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui vous a fait le retenir? Est-ce que vous, dès la première lecture, vous saviez que vous allez le retenir ou pas? Est-ce que...
Oui, moi en général, dès la première lecture, dès les premières pages, on va dire, si j'arrive à continuer et à aller jusqu'au bout, c'est que le livre me plaît. Moi, il me plaît en général... plutôt d'abord sur le style, sur l'écriture elle-même, hein, parce que je suis très sensible à l'écriture avant d'être...
Je peux en parler, mais oui. Il y a effectivement...
Il y a une écriture, un style qui apparaît
tout de suite, d'emblée, et qui est la signature d'un auteur, vraiment.
Ouais. Et qui pourtant, dans le cas de Philippe, est un journal, donc c'est pas évident du tout. Un journal... peut glisser très facilement vers l'égocentrisme, vers quelque chose qui me plaît vraiment pas. Donc il y a un équilibre entre le entre ce style et le mode du journal. Oui.
Mais on sent que c'est un récit quand même, malgré tout.
Et c'est un récit.
C'est un récit. Ouais.
Alors c'est un récit. En fait, c'est un espèce de huis clos entre deux personnes. Un huis clos très cérébralisé par le deuxième aspect qui est le retour vers la mer, vers Anna, et qui en plus c'est là où on a un petit peu travaillé le manuscrit. Il fallait vraiment qu'il y ait un ancrage dans le quotidien, qu'on a un petit peu plus encore plus appuyé, donc qui est la troisième voie et qui est toujours sous la forme journal.
On peut vous demander de nous lire un autre extrait?
Ben justement, un extrait du Retour vers la mer, en quelque sorte. Na. De nous deux, Na, qui avait décidé de rencontrer l'autre? Je me souviens d'avoir beaucoup préparé ce grand voyage qui m'a conduit vers toi, d'avoir cherché les accessoires et les médicaments qui ne m'ont finalement servi à rien, puisque tu étais là-bas. Toi, pendant ce temps, tu parfumais l'eau du Canari avec du tamaré, sans savoir que ce serait pour moi. Comme tu le faisais pour tous les autres qui arrivaient à ta case avec la bouche sèche du voyage ou du travail au champ. Quand je suis arrivé, nouveau-né de 22 ans, tu as su tout de suite comment faire avec moi. Tu as eu les gestes précis et décidés de quelqu'un qui s'attendait à ça. Alors je me suis demandé si tu n'avais pas décidé de notre rencontre sans que je le sache, finalement. Ce qui va maintenant se passer avec la Milex, je ne m'y attendais pas non plus. Na, j'essaie de te parler pour arriver à comprendre un peu de ce qui va se passer. J'ai besoin de faire entrer en jeu quelqu'un capable de s'attendre à l'imprévisible. Je te vois encore comme quelqu'un qui saurait décider des choses à ma place, peut-être, avec fraîcheur et précision, grâce à l'entraînement procuré par la poussière et la chaleur d'Afrique, peut-être. Ici, j'ai eu l'impression de n'avoir jamais rien décidé, et pourtant, je ne regrette rien. Un jour, je me demanderai peut-être ce qu'aura décidé la Milex dans ce qui va se passer entre nous. Et peut-être dans ce qui va se passer de nouveau entre toi et moi. Na.
Merci Philippe Sahuc. On voit tout de suite le style qui a été repéré. Hein, tout ce roman, c'est le rapport quand même d'un homme sur un enfant. Donc c'est assez, comment dirais-je, comment cette idée-là a germé chez vous? Qu'est-ce qui a motivé vraiment? Parce que c'est quand même très original comme démarche.
Mais il a fallu ce déclencheur pour arriver à écrire quelque chose dont j'étais porteur depuis ce grand séjour en Afrique, puisque là il y a un élément de mon vécu, une vraie Na a existé pour moi il y a 20 ans, et j'ai voulu, dès mon retour d'Afrique, écrire là-dessus, et je n'y arrivais pas. En quelque sorte, j'avais qu'un brin de la tresse, et ça ne marchait pas. Et il a fallu que 20 ans après, une fiction, parce que ça n'est une véritable, je n'ai pas dans ma vie de vécu comparable, une fiction, celle donc d'un enfant qui n'aurait plus de père et de mère, et la vie avec lui a offert cette sorte de miroir pour à la fois écrire toute cette adresse à Na, la mère africaine de jadis, et également cette vie partagée avec cet enfant-là. Alors après, comment naissent les fictions? À la fois on a envie de croire qu'elles arrivent un peu magiquement, et on sait bien aussi qu'il y a des choses entendues dans la vie, des choses parfois imaginées à partir de possibles, qui font que la fiction est là.
C'est un enfant miroir un peu quand même.
Oui, et à un certain moment, l'adulte est aussi le miroir de l'enfant, je crois.
Tout à fait. Oui, oui.
Il y a les deux.
Oui, se répondent.
Ouais.
Très bien, merci beaucoup, Philippe Sahuc, d'être venu.
Avec plaisir.
Mais vous avez écrit, je crois, quand même un premier roman que je ne connais pas du tout.
Alors, c'est pas tout à fait un roman, à vrai dire. Hein. C'est plutôt, disons, une édition de pages d'un journal que je tenais à l'époque où j'étais facteur en Couserans et de réflexion associée à ce métier en zone de montagne. Mais je me suis peut-être laissé emporter un peu par de la fiction, donc si vous voulez un roman, alors encore moins classique que celui-là, disons.
On peut le trouver? encore il est
je crois que c'est devenu très difficile, bon. Malheureusement.
En tout cas, il n'y a aucune difficulté pour trouver l'âme de Philippe Sahuc. Nous mettrons toutes les coordonnées sur notre site www.lespoètes.fr aux éditions Lacardère. Et merci beaucoup, Bruno Mcika, d'être venu ici accompagner votre auteur.
Merci
également de vous retrouver, puisque nous vous retrouvons la semaine prochaine. Bonsoir.
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 Et à bientôt.